Bonjour à tous, merci d'être venus. Nous allons pouvoir entamer cette discussion avec Melchior Ascaride.
Bonjour.
Sur concevoir un livre, créer une identité graphique. Alors je suis très impressionné, moi, d'être en face de Melchior Ascaride, parce que certains d'entre vous étaient peut-être présents l'année dernière lorsqu'il a reçu le prix Imaginal 2016 pour l'identité graphique des moutons électriques. Et Melchior a fait des études graphiques à Aix et à Marseille, et puis s'est installé à Paris il y a 4 ans maintenant.
C'est ça.
Voilà. Où vous travaillez maintenant en freelance, vous avez votre propre studio.
Et vous, on va dire ça.
Voilà. Et vous êtes entre autres spécialisé avec un client qui est les moutons électriques.
Oui.
Et donc, j'avoue que moi, comme je pense beaucoup d'entre vous, je suis un lecteur, j'aime le livre objet, la couverture en plus, c'est vrai que c'est ce qui nous attire tous hein, sur la table pour voir, mais je n'ai absolument aucune idée de la manière dont on aboutit à ce résultat, et je pense que comme vous, on est ici pour avoir plein de réponses. Donc, vous excuserez mes questions qui paraîtront sans doute très naïves parfois, mais alors, première chose, comment opère-t-on ? On est là avec un manuscrit sous forme électronique. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, moi, ce qui se passe... Alors, c'est vrai que la chance que j'ai avec les moutons électriques, c'est que c'est des gens organisés. Et je reçois les manuscrits assez en avance. Et comme ça a été pendant très très longtemps, enfin pendant les 4 dernières années, mon seul client en édition, j'avais le luxe de pouvoir lire les livres avant d'attaquer la couverture. Ce qui n'est pas forcément le cas quand les délais sont serrés ou que le livre n'est pas terminé ou qu'il est encore en cours de traduction. Donc c'est vrai que moi j'ai besoin de lire le manuscrit pour savoir de quoi ça parle, parce que c'est vrai que dans la littérature de l'imaginaire, les influences des auteurs sont de plus en plus diverses et variées. Je prends comme exemple Stéphane Plateau, qui a un mélange de culture celte et hindoue. Voilà. Si on vous fait un brief en disant voilà, c'est un roman de fantasy avec une culture qui mélange les inspirations celtiques et védiques, vous savez pas très bien où vous allez, quoi. Vous demandez comment ça se combine, ça fonctionne pas du tout, j'y arriverai jamais. En fait, quand on lit le roman, on se rend compte que si, en fait, ça marche très très bien et qu'il y a plein de choses à en tirer. L'intérêt, je trouve aussi, pour ma part en tout cas, de pouvoir lire le roman, c'est que j'ai probablement pas le même œil que l'éditeur ou l'auteur sur le texte, ce qui fait que moi je vais peut-être considérer que certains aspects sont importants, graphiquement en tout cas, pourront être intéressants visuellement. Alors que si on me fait un brief en me disant tu prends cette scène et tu la retranscris, c'est peut-être pas l'approche la plus judicieuse. Voilà. Faut savoir aussi dans tout ça que j'ai la chance de travailler avec les moutons électriques qui me font une confiance absolue, qui me laissent carte blanche. Donc voilà, j'ai pas énormément de contraintes non plus à ce niveau-là.
Alors la première chose, bon, dans cette identité. Et c'est vrai qu'avec les moutons, c'est qu'on reconnaît instantanément leur livre sur une table par le format. Donc ça, c'est un choix c'est un choix d'André-François Ruault, le patron des moutons.
Oui, alors, c'est vrai que ça, c'est le format des moutons électriques qui fait 17 donc sur 21 avec... Yops. Des rabats. Ça, c'est le format qui a été décidé à la création des moutons. Donc, bien avant que j'arrive. Donc, moi, j'ai dû m'y adapter. Mais ensuite, au terme de discussion, et quand est arrivé Dévoreur, qui était une novella, donc un texte assez court, on s'est dit, en grand format, ça passera pas, ça va être trop fin, il faut qu'on en crée un autre. Donc, on a créé ce petit format-là qui fait... Qui a le même ratio en fait que les grands formats. Et voilà, moi je n'ai participé qu'à la création de ce format-là. Le reste c'était avant. D'accord. Moi.
Alors parlons d'abord des grands, parce que les petits sont très spéciaux et méritent qu'on en parle ensuite. Donc, les grands, alors vous arrivez, vous avez ce format imposé. Est-ce qu'il entraîne des contraintes particulières par rapport au format habituel que nous connaissons tous?
Non, je trouve pas qu'il... Alors oui, si, il y a une contrainte, effectivement. Voilà, le rabat. C'est-à-dire que quand vous faites la couverture de votre roman, vous l'envoyez, on vous dit oui, c'est bien, voilà, c'est parti. Et puis, 3 mois plus tard, quand il faut faire la couverture finale, on se dit, voilà, maintenant, il faut que je rajoute 10 cm de chaque côté de ma couverture. Qu'est-ce que j'y mets? c'est une contrainte assez mineure parce que soit ça permet justement de déborder de la première de couverture et de se dire bon, il y a des petits éléments que j'aurais bien aimé placer mais qui vont pas en première, ben je vais les mettre dans les rabats ou de tirer un peu la matière, voilà, comme je crois que c'est sur Heure et Nuit. Ouais. Ah. Heure et Nuit, la couverture, donc c'est une cité arabisante. Bon, pas bien compliqué de faire le rabat, il suffit de la tirer sur le côté.
Est-ce que vous réussissez à voir dans le fond? Parce que vous savez qu'il y a des places juste devant, donc pour pouvoir profiter au maximum des couvertures comme on ne pouvait pas les projeter, si vous voulez, n'hésitez pas à vous rapprocher pour mieux voir. Hein.
Donc ouais, donc c'est pas un format très contraignant. Moi au début quand je suis arrivé, il y a aussi ce bandeau en bas qu'on conserve, qui d'habitude est noir. Moi j'ai pas osé tout de suite en faire quelque chose de ce bandeau. Et au fur et à mesure de notre collaboration avec Les Moutons, André François m'a dit mais tu sais que le bandeau il est pas obligé d'être noir, tu peux en faire autre chose. Il peut être d'une autre couleur, tu peux même mettre des trucs dedans. Et donc, par exemple, voilà, sur L'homme qui traversa la Terre, qui est un roman steampunk, on a fait un bandeau en rouage doré. Parce que c'est vrai que c'est le piège vite de l'identité graphique, c'est que quand on crée un système, on peut se retrouver prisonnier de son propre système. Quand vous avez des codes qui sont établis et que vous devez respecter, au bout d'un moment, ça peut être assez ennuyeux de toujours avoir un bandeau noir en bas, un bandeau noir en bas, un bandeau noir en bas. Sur certains livres, c'est amusant et je pense plus intéressant pour les lecteurs aussi d'être capable d'exploiter à fond l'identité du livre et donc de se dire, voilà, j'ai ce bandeau. Une fois de temps en temps, qu'est-ce que je fais pour que le lecteur ne s'ennuie pas systématiquement avec cette espèce d'aplat noir en bas? Voilà, c'est un peu... C'est un peu le comment dire, ce que moi j'essaye de faire quand je fais des couvertures, c'est-à-dire de pas ennuyer le lecteur avec des séries, de faire quelque chose qui puisse un peu varier de temps en temps.
D'autant plus qu'au Mouton électrique, le style de texte est très varié aussi.
Oui, en plus, donc il faut leur faire honneur et savoir se renouveler aussi soi-même, d'une série à l'autre et au sein même d'une série aussi.
Et donc, alors, André-François Ruault vous demande de créer cette identité graphique. Alors, comment vous y êtes-vous pris
Pour les moutons en général ou pour des séries?
D'abord pour les moutons en général, parce que, comme je le disais, un livre des moutons se reconnaît instantanément.
D'accord.
Sur une table grâce à vous. Et puis ensuite, on descendra dans les séries. Parce que je pense, par exemple, à Viridienne, qui a un graphisme tout à fait particulier, etc.
Oui, on peut en parler, ça va être marrant, voilà. Viridienne. alors là, je suis un peu embêté, parce que comment je l'ai créé Je pense que ça vient de mon approche, moi, de la couverture et de la culture graphique que moi, je peux avoir. Qui est entré en résonance avec la culture graphique qu'ont les gens des moutons électriques. Parce que c'est ça qui est très plaisant aussi de bosser avec eux, c'est que c'est une maison d'édition qui a une très très forte culture graphique. Je pense qu'au départ, on a commencé à travailler ensemble parce que mon travail les intéressait. Et puis à force d'échanger, à force de travailler, de discuter, ça s'est naturellement affiné. Et puis c'est vrai que quand on vous donne carte blanche, vous avez envie de donner le meilleur et de vous dire bon ben je vais faire la couverture que moi j'aimerais voir en tant que lecteur. Voilà, c'est je vais essayer de faire le livre que j'achèterais si je l'avais pas déjà en fait.
D'accord. Parce que en fait, ce qu'il y a de très frappant, c'est que bon, il y a beaucoup de couvertures différentes, mais on reconnaît toujours quelque part derrière votre patte, parce que entre, je sais pas, par exemple ça, ou prenons Manèche, c'est très différent, mais en même temps. On voit qu'il y a une unité derrière.
Bah, je suis content que ça se ressente. je pense que ça vient aussi de ma sensibilité. Moi, j'ai une grande passion pour les affichistes des années 30,
oui.
Notamment Cassandre, et une grande passion pour le travail de Mike Mignola, qui m'a appris énormément de choses en termes d'épuration d'image. Et de composition, et plus après les études que j'ai faites de graphisme, où on vous demande de faire ressortir une idée, un concept, d'essayer d'aller au plus simple. Oui, je pense que tout ça est venu de ma formation et de mon approche, ouais, de l'approche graphique de l'imaginaire.
Alors, autre question qui est sans doute assez naïve, mais importante pour les gens qui, comme moi, et comme je pense beaucoup ici, aiment les livres, aiment les collectionner et aiment admirer leurs rayonnages qui sont plus que remplis. Au niveau du dos, qui est quelque chose dont on ne parle jamais et qui pourtant est ce qui nous attire quand c'est chez nous. Comment fait-on pour le design d'un dos comme ça ? Comment le choisit-on ?
Alors, le dos, c'est un peu comme le format. Non, il faut savoir qu'en ce moment, les moutons électriques, la plupart des livres ont un dos blanc. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, ils avaient tous un dos coloré. André François a décidé de passer à un dos blanc pareil avant que j'arrive. Et puis c'est pareil, c'est comme le bandeau, c'est le dos blanc, c'est très bien. En plus, le titre est toujours à l'horizontale, donc c'est pratique quand ils sont rangés. On n'a pas à se tordre le cou pour le lire. Mais on revient sur l'idée du piège du système, c'est-à-dire que quand vous avez que des dos blancs qui s'alignent, au bout d'un moment, c'est un peu pénible, quoi. Donc une fois de temps en temps, on change. Et doucement sur les grandes séries, on revient à des dos colorés. Pareil avec le texte, le titre horizontal pour garder de la lisibilité, mais parce que quand même mettre un peu de couleur, c'est chouette, quoi.
Alors.
Puis là, il y a des livres qui arrivent chez les moutons. Pardon, je vous interromps, mais avec des dos où on s'est dit non, maintenant ça suffit et on va les texturer un peu parce que c'est rigolo. Donc on va avoir un roman, là, Espérer le soleil, avec un dos tout taché de sang, et il va être chouette.
On va voir ça. Alors parlons peut-être un petit peu, il y a une série qui me semble bien particulière, vous aviez commencé à en parler, c'est Véridienne.
Oui, alors malheureusement je ne les ai pas parce qu'ils sont tous partis, enfin malheureusement, heureusement, pour les moutons et pour Chloé. Alors je ne sais pas si vous voyez la couverture de Véridienne. Pour ceux et celles qui la connaîtraient pas, je vais vous la décrire rapidement. Il y a un fond parcheminé avec un cercle noir un peu au-dessus du centre de la composition, un château rouge au milieu qui se dissout comme de l'encre dans de l'eau. Et donc c'était une des propositions que j'ai envoyées à André François quand il a fallu faire la couve de Véridienne. Et quand j'ai envoyé le mail, j'ai croisé les doigts pour que ce soit celle qui ne retienne pas. Parce que ça allait être une série de 3, 4, voire peut-être 5 tomes. En fait, ça va être 4. Et je me suis dit, ça va être impossible à décliner. Je ne peux pas faire d'autres tomes avec cette idée. Je suis un imbécile de la proposer, mais tant pis, je le fais quand même. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail d'André François qui me dit « Bah voilà, c'est celle-ci qu'on garde, elle est très bien. » J'ai un peu pleuré en me disant « Bon, bah j'espère que le deuxième tome ne va pas arriver tout de suite parce que je suis perdu. » Et puis la couverture a pris. Je crois que les gens l'ont... Elle a eu un très très bon accueil, je l'ai trouvé chez les lecteurs, et puis je me suis dit bah tant pis, tu t'es piégé tout seul mon grand, débrouille-toi avec ça et fais 3 autres tomes. Donc il a fallu la décliner, ça a été facile pour le deuxième tome et là le troisième arrive et je vais encore me répéter mais voilà, les compositions sont toujours très verticales sur les deux premiers tomes. Sur le premier tome on a un château qui se dissout, sur le deuxième tome on a un personnage masqué. Et ces deux compositions très verticales. Et le troisième tome, la composition sera un peu plus horizontale et un peu plus oblique parce qu'on approche de la fin. Et parce que, pareil, il faut un peu. Il faut pas que les lecteurs se lassent à la vision des couvertures. Il faut qu'elles soient reconnaissables, mais pas que. Enfin, voilà, moi, j'aimerais pas qu'on me dise un jour, ouais, ta couve, elle est chouette, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Donc voilà, moi aussi d'essayer de rester dans ma propre identité, dans mon propre système, mais de trouver des combines pour contourner un peu et voilà, pas me lasser moi, pas lasser les éditeurs, pas lasser les lecteurs aussi. Donc voilà, on verra l'accueil du tome 3.
Alors dans Viridienne, il y a aussi à l'intérieur du livre même, et on en reparlera pour d'autres, mais déjà dans Viridienne, il y a aussi tout le design interne du livre. Avec les
écussons.
Voilà, les ouais. Écussons, etc. C'est assez particulier.
Ben, comme Viridienne, c'est un livre à 5 ou 6 narrateurs différents, enfin, principalement narratrices d'ailleurs, et que d'autres personnages allaient venir s'intégrer, on s'est dit que c'était plus pratique pour les lecteurs d'avoir un code qui leur permet de savoir qui parle. Donc on a mis en place un système de blason où il y a un petit macaron pour chacun des personnages. Donc voilà, qui a une tête de loup, qui a une tête de chat, une des personnages qui a un lilas, et on va savoir enfin pourquoi. Donc voilà, oui, c'est une manière aussi de commencer à habiller graphiquement les livres, mais pas gratuitement. Voilà, pour faciliter la lecture et puis parce que comme c'est une fantaisie médiévale et dynastique, c'est pas que pratique, c'est pas complètement dénué de sens non plus. Je pense d'avoir des blasons pour chacun des personnages qui en plus sont des princesses et des princes, donc voire des reines.
Alors autre question, est-ce que aussi au niveau des polices de caractère, etc. Parce qu'à l'intérieur de certains livres, il y a des polices qui sont tout à fait curieuses par moments, comment ça s'appelle, sur les entêtes qu'il y a répétées de page en page. Il y a des petits dessins. Enfin, c'est parfois alors, très sophistiqué aussi.
Oui, ça, il faut savoir. Alors, on travaille de plus en plus ensemble dessus. Il faut savoir que je crois que c'est arrivé avec Or et Nuit. Mais ça, c'est entièrement l'idée de Meredith de Bach, qui est l'assistant éditorial. Voilà, hop. Et qui s'est amusé, comme le livre était découpé en plusieurs parties, à récupérer certains de mes éléments pour habiller le livre. Et c'est vrai que moi, je trouve une très très bonne idée parce que. Alors je vais faire un petit aparté sur Tout au milieu du monde, c'est juste parce que je trouve que c'est assez symptomatique, qui est un livre entièrement illustré, et on a découvert récemment avec mes deux collègues qu'une librairie nous avait casé en album jeunesse parce qu'il y a des images. Voilà, ce n'est absolument pas pour les enfants, voilà, moi je suis un fervent partisan d'une littérature adulte et intelligente, enfin de la vraie littérature, c'est-à-dire voilà du texte travaillé, et ça, il peut y avoir des images, c'est pas sale, c'est pas dégradant pour le texte, c'est pas dégradant pour les lecteurs, on a eu une culture en France de la littérature illustrée qui s'est perdue quelque part Je sais pas à quel moment, je sais pas où ça a vrillé, mais oui, moi je suis pour le retour de l'image dans la littérature parce que c'est une autre forme de langage et ça peut compléter du texte, ça peut enrichir du texte et puis c'est le livre, voilà, c'est pas juste du texte sur une page blanche, on peut aussi avoir un joli objet. On peut avoir un objet ludique dont on apprécie de tourner les pages, dont un objet dont on est fier, qui est beau, pas juste quelques lignes d'encre sur des pages blanches, quoi.
Alors il y a deux autres séries. On reviendra ensuite aux livres spéciaux parce que
juste
vraiment qu'on s'y arrête. Mais vous pouvez peut-être aussi parler de deux autres séries qui ont vraiment une identité graphique très particulière. C'est d'une part les livres de Stéphane Plateau. Mm-hmm. Et d'autre part, ceux de Jean-Philippe Jaworski.
Alors, Jean-Philippe Jaworski, c'est pas moi.
Ah.
C'est Sébastien Hayez.
Ok.
Mais par contre, oui, alors Stéphane Plateau, je peux en parler. Alors, Stéphane Plateau, auteur de Hop, Manèche et Shakti. Et Dévoreur, donc on en parlera éventuellement après parce qu'il est un peu à part. Donc, comme je disais au commencement, voilà, Stéphane Plateau, il a une fantaisie donc d'inspiration celtique et védique. Comment on fusionne ça visuellement, c'est très compliqué. Et comme j'ai lu son texte et que André François nous a mis en contact, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Moi, j'ai commencé avec son premier tome, mais je savais qu'il allait en avoir plusieurs. Donc je lui ai envoyé un mail en lui disant « Bon voilà, j'ai lu ton texte, c'est formidable, maintenant j'ai quelques questions à te poser ». Et donc je lui ai posé une série de questions sur des éléments qui m'avaient interpellé dans le livre, notamment son sous-titre « Les sentiers des astres ». Et donc je lui ai demandé « Est-ce que c'est un endroit physique ? Est-ce que c'est quelque chose de plus métaphorique ou de plus mystique ?» Parce que c'est quand même très axé sur la mystique. Et quelles sont l'influence des astres dans ton monde. Et donc on a discuté, et il m'a décrit chacun de ces 8 ou 9 astres, je ne sais plus. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que les astres sont très importants dans le texte. Il y a beaucoup de personnages, les brahmines, les mages, qui se peignent souvent sur le front ou qui font un symbole dédié à un astre, mais ils ne sont jamais décrits. Donc je me suis dit, ça va être plutôt rigolo, je vais m'amuser à créer les symboles des astres et les proposer à Stéphane. Je l'ai lui envoyé, il les a tous reconnus, donc je me suis dit, c'est très bien, ça, on a tapé juste et on a un système de roue des astres en première de couverture, qui, comme en plus l'influence des astres change d'un livre à l'autre, on n'est pas toujours axé sur le même astre, ça permet de garder ce motif circulaire central, mais de le faire pivoter en fonction de quel est l'astre principal. Et ce qui est rigolo, c'est que dans sa novella qui est parue là, dans l'anthologie des Imaginales, il a récupéré le symbole que moi j'ai récupéré de son texte pour l'inclure dedans. Donc voilà la scène d'introduction qui se passe dans cette espèce d'arène de combat, si vous l'avez lu ou quand vous le lirez, c'est la roue des astres que j'ai créée pour lui.
Donc là, pas de problème, il peut aller jusqu'à 8 ou 9.
Oui, mais oui, dans l'absolu, oui, il peut aller. Ça va être compliqué parce que c'est vrai que là, on a un fond photographique, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller jusque dans le brillant de tir pour aller prendre des photos et ramener les clichés. Donc il faut arriver à trouver des combinaisons, des combinaisons de photos, des montages ou des atmosphères pour. Voilà, le troisième tome va être très intéressant en termes de défis puisque comme ça va être assez urbain. Là on a une forêt, une plaine enneigée. Là on va avoir un environnement urbain. Ça va être intéressant, ouais, de voir comment je vais arriver à récupérer son architecture celto-védique et la retranscrire éventuellement en photo ou d'une autre manière. Donc oui, mais dans l'absolu, il peut aller jusqu'à 9 tomes.
Alors, autre chose aussi au niveau des couvertures, vous commencez aussi, alors, à vous, entre guillemets, amuser avec des couvertures qui sont un peu en relief.
Oui. Alors... Et là, c'est parce que l'occasion était trop belle. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Pour le Cthulhu de Patrick Marcel, on s'est dit qu'on voulait une couverture déjà très graphique, mais aussi un peu dérangeante. Donc on a cet amas de tentacules fluo, et je ne sais pas si vous l'avez touché, mais il y a des verrues dessus. Donc voilà, ça a été l'occasion de faire un peu de gaufrage dessus et de jouer avec les textures. Parce que c'est un truc qui est très chouette à faire, mais c'est très compliqué d'avoir des encres fluo, du vernis, du relief, de la texture sur la couverture. Ça coûte souvent très très cher. Pareil pour Dévoreur qui a une découpe dans la couverture. Donc c'est vrai que non seulement il y a des contraintes techniques qui font que c'est pas forcément envisageable sur tous les livres. Et puis il y a aussi la contrainte, on va dire, intelligente où, bon, si ça sert pas, ça sert pas, quoi. S'il y a pas besoin de, on va pas faire des verrues sur la couverture de Stéphane Plateau, quoi. Là, ça n'aurait aucun sens.
Alors, est-ce qu'on peut, là, je fais un petit aparté, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à ce que vous nous fassiez un livre où, par exemple, là, il y a le pop-up, le tentacule qui agrippe le lecteur à la gorge?
Je rêverais de faire ça. Je sais pas le faire, mais je sais pas du tout le faire. Mais alors, oui, normalement, j'étais comme sur un autre projet de DVD. Je vais travailler sur du pop-up. Je vais peut-être pouvoir commencer à me faire la main. Donc, je proposais à André François de dire, viens, on fait des livres avec des pop-up dedans.
Autre chose encore, la quatrième de couverture, ça aussi c'est assez particulier, parce que oui. Après la couverture qui donne envie au lecteur sur la table de prendre ce livre-là, de l'employer, et s'il faut lui donner et de lui donner envie de le retourner pour lire la quatrième. Là
oui.
Aussi, est-ce qu'il y a des contraintes?
Normalement, oui. Le défi, c'est accrocher le regard avec la première de couverture, faire se retourner le livre et faire s'ouvrir le livre grâce à la quatrième. Non, des contraintes là non plus, il y en a pas. Je sais pas si. Il y en a une, bien sûr, c'est qu'il faut que ce soit lisible. Voilà, ça forcément. J'ai pas de. Oui, voilà, pareil. On en parlera après, mais pour l'île de Peter, par exemple, qui est une couverture très simple, la quatrième de couverture, c'est juste la continuité, mais il y a pas d'autre élément qui vient à l'intérieur parce qu'il n'y a pas besoin. C'est intéressant d'habiller des quatrièmes de couverture. Je crois que sur Dévoreur, oui, voilà, il y a quelques vautours, un dragon à chaque fois sous le texte de quatrième des couvertures de Nathalie Do.
Il y a celle-ci aussi qui est.
Ah oui, mais là le problème c'est qu'elle est un peu sombre, les gens verront pas du tout. Mais oui, celle-ci, oui, qui est une façade d'immeuble. Une façade d'immeuble nocturne, mais alors nocturne dans l'ombre, là, c'est
à voir quand même un petit peu, non.
Non. Bah, je vous invite sur le stand des moutons à venir la regarder, parce que en plus le livre est très bien. Mais oui, non, la seule contrainte, moi, que j'ai pour la quatrième de couverture, c'est il faut que le texte soit lisible. Après, moi, j'ai pas de contrainte de la part de l'éditeur. Je peux la surcharger d'éléments si faire des grandes fresques autour. On peut en faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça peut être aussi la prolongation de la première de couverture. Il y a pas chez les moutons électriques, en tout cas, il y a pas de règles, il y a pas de contraintes.
Comme c'est vous qui êtes en charge de l'identité graphique, vous faites ce que vous
voulez. En plus.
Alors, parlons peut-être un petit peu justement maintenant des, oui, livres un peu plus spéciaux, ces nouveaux petits formats, où là aussi, manifestement, vous vous éclatez complètement.
Oui, oui, oui. C'est un format qu'on a créé donc avec des voix, comme j'ai dit, parce que le texte était trop court pour en faire un grand format. Et on s'est dit, quand on a vu Dévoreur imprimé et fabriqué, on s'est dit, mais en fait, ce format, il est super chouette. Donc, il faut qu'on le garde. Il est très agréable en main. Et en plus, pour un éditeur, c'est du pain béni, parce que ça lui permet d'avoir des textes plus courts qu'il ne sortirait pas forcément en grand format, et d'avoir une collection dans laquelle les proposer. Comme c'est un format qui a le même ratio que les grands, moi, je ne suis pas particulièrement dépaysé. Et comme c'est des textes courts, oui, ça permet de continuer à s'éclater. Et puis voilà, par exemple, pour Et si le diable permet, qui est un roman pulp qui se passe dans les années 30 au Québec, ça a été l'occasion d'aller fouiller un peu du côté de ce qui se faisait dans les années 30 dans la littérature américaine, la littérature pulp, la littérature de genre, et de allez hop, récupérer les codes et faire un vrai faux vieux livre tout récent.
Revenons peut-être un peu sur Dévoreur, oui, qui était le premier et qui a un graphisme et une couverture tout à fait particulière.
Oui, c'est alors Dévoreur, j'en suis très content parce que justement à cause de ou grâce à ma formation de graphiste, c'est vrai que des fois on est un peu pris par le syndrome du fond blanc. On se dit non, le fond blanc c'est bien parce que ça fait bien ressortir les choses. Mais ça peut être, c'est pas forcément adapté non plus ni à la littérature ni à la littérature de l'imaginaire surtout. Et en fait, Dévoreur, c'est un peu né par accident comme couverture, parce que quand j'ai dessiné ce visage d'ogre, que je l'ai scanné, je me suis dit bon, qu'est-ce que j'en fais? Je vais le mettre là sur ma couverture, mais en aplat de couleurs, ça va être un peu triste, etc. Et puis je crois que c'est une fausse manip qui m'a fait. Je voulais essayer de mettre un fond derrière, un fond d'étoile, et une fausse manipulation sur mon ordinateur l'a incrusté dans la tête. Et je me suis dit ah non, là c'est bon, on touche plus à rien. Là elle est chouette. Et puis j'espère qu'ils vont la prendre parce qu'en vrai voilà, comme c'est un objet, c'est le premier, on voulait en faire un bel objet livre, donc on s'est dit Il est complètement hors collection, il est même en dehors de la série des Sentiers des Astres, alors qu'il se passe exactement dans le même univers. On s'est dit bon, on va faire autre chose, on va proposer un autre format, on va l'habiller graphiquement à l'intérieur. Et je suis très content parce que Meredith et André François ont eu aussi le culot de dire bah on va complètement, quitte à être hors collection, on va être hors charte complète et avoir un élément comme ça sur fond blanc, c'est parfait. Donc ouais, je suis Dévoreur reste un des livres dont je suis très 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 fier et très très content.
Alors, autre livre dont vous êtes très fier, au point d'ailleurs que votre nom apparaît même sur la première de couverture, c'est Tout au milieu du monde, qui est là aussi, je dirais, un ovni des moutons électriques.
Oui. quoi dire dessus? Oui, c'est un ovni en fait. Tout au milieu du monde, c'est. Est-ce que je raconte la genèse un peu de comment ça. Ouais.
Je pense que ça en vaut la peine.
Ouais. C'est assez marrant. C'est venu de deux conversations un peu séparées. Moi, j'avais commencé à discuter avec Julien Bétan, donc qui est directeur de collection chez Les Moutons Électriques et un des deux auteurs. Et on s'entend très bien, etc. Et un jour, on a dit, ce serait chouette quand même qu'un jour, on arrive à collaborer sur un projet, mais il faut arriver à trouver quoi, pourquoi on mettra un aspect graphique à l'intérieur. Mais on va garder l'idée sous le coude. Et un jour, quand on aura un truc, on le proposera à André François. Et quelques jours plus tard, on a commencé à discuter. On s'est dit, bon, viens, on fait un truc quand même sur la préhistoire. Ce serait chouette, c'est pas beaucoup exploité. Et quelques jours plus tard, André-François Ruault me dit avec un sourire, « Bon, maintenant que tu as eu le prix Imaginal, quand est-ce que tu nous fais un livre illustré ?» Et on s'est regardé avec Julien Bétan et on s'est dit, « Bon, bah, maintenant que tu en parles, voilà, on a ça à te proposer. » Et il nous a dit, « je ne sais pas à qui on va vendre ça, mais faites-le. » Et de là, c'est greffé Mathieu Rivero, parce que ça faisait longtemps que Julien Bétan voulait travailler avec Mathieu. Moi, Mathieu, j'ai travaillé avec lui sur les couvertures de ses romans, donc Or et Nuit et Les Arpenteurs de rêve chez Naos. Et on a commencé à discuter. Ça a été très intéressant parce que on n'a pas voulu juste faire un livre illustré avec du texte, une illustration pleine page, du texte, une illustration pleine page. On a voulu vraiment donner une vraie part narrative à l'illustration et à la partie graphique, à tel point que petit à petit l'image prend le pas sur le texte et toute la fin du récit est racontée en images. On a voulu voilà, vraiment proposer, comme le texte déjà est assez sensoriel, assez porté sur les émotions et le ressenti des personnages, On s'est dit on va essayer d'y aller à fond autant que possible et proposer la même chose à nos lecteurs et leur proposer une expérience de lecture voilà avec du texte qui va changer qui va sortir de son cadre et commencer par exemple celle-ci voilà où je sais pas si vous voyez bien où le texte va commencer à changer d'orientation.
Il change de couleur,
il n'est pas toujours linéaire, des fois il est circulaire aussi. Des fois le texte est utilisé comme attendez que je vous retrouve la page. On a utilisé le texte aussi comme élément d'illustration. À un moment, il y a une scène de combat, voilà. Une créature qui a un morceau de lance planté dans la poitrine et c'est le texte qui parle de la moitié de la lance qu'il a dans le corps qui sert d'image plutôt que de récupérer encore l'image de la lance plantée. Donc voilà, on a vraiment voulu faire un livre où on s'est amusé et puis encore une fois un livre avec des images qui n'est pas pour les enfants et surtout proposer une vraie expérience de lecture où tout le monde est à part égale. Il n'y a pas le texte et l'image. Chacun gentiment dans son coin. Il y a le texte qui dit quelque chose, l'image qui soit dit autre chose, soit le complète. Et à la fin, voilà, Julien et Mathieu ont eu le courage de s'effacer complètement et de me laisser un petit espace d'expression pour que moi je termine l'histoire. On s'était mis d'accord sur les grandes lignes, mais
d'autant plus que le style de votre dessin évolue au fur et à mesure du bouquin, il se modifie au fur et à mesure du bouquin parce qu'il commence. Alors, ça se passe au temps préhistorique,
oui.
Hein, enfin, une certaine préhistoire qui n'est pas forcément la nôtre, mais les premiers dessins sont des dessins qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir dans les grottes préhistoriques, etc. Et puis, on constate qu'au fur et à mesure de l'évolution des personnages et de l'histoire, le graphisme lui-même évolue et on se détache de plus en plus.
Oui, on s'en détache de plus en plus. Alors c'est vrai que comme ça se passe dans une proto-histoire, moi c'est le premier truc qui m'a conquis, c'est de me dire un livre entièrement illustré avec des images inspirées de l'art pariétal, c'est génial parce que voilà, on a aucune limite, ça peut être vachement intéressant parce que mine de rien c'est assez peu utilisé j'ai de grosses lacunes, mais c'est assez peu utilisé comme période dans les littératures de l'imaginaire, alors que c'est une mine. Donc oui, l'idée aussi c'était que comme le récit évolue, l'image évolue elle aussi, sort de son propre carcan de l'illustration pleine page pour commencer à changer. Et j'ai perdu mon propre fil, ça m'arrive très souvent, c'est déstabilisant. Oui, et en plus, comme la fin est racontée en images, ça nous et m'a permis aussi d'aller puiser de l'inspiration ailleurs, pas que dans l'art pariétal, mais aussi d'aller récupérer des codes qui viennent de la bande dessinée, du jeu vidéo, du cinéma aussi, pour tester d'autres cadrages, c'est facile de faire passer des messages avec du texte ou faire décrire une scène, mais faire ressentir des émotions avec des personnages qui en fait ne sont que des silhouettes, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais de se détacher justement de tous les codes classiques de l'illustration permet aussi d'aller puiser ailleurs et de proposer des images qui vont puiser à droite à gauche. En termes d'inspiration.
Alors là, on a parlé des moutons électriques. Vous êtes en charge de l'ensemble de l'identité graphique. Oui. Sauf, on l'a compris à ma grande honte, de Jaworski.
Donc, un jour peut-être.
Mais il y a une nouvelle collection aussi qui est Naos, dont
oui.
On pourrait parler.
Bien sûr.
Et alors là, comme Naos, c'est une collection qui est partagée entre les trois maisons d'édition qui sont associées.
Oui.
Au sein des indépendants. Est-ce que vous êtes en charge de tout Naos?
Non.
Ou seulement la partie publiée par les moutons?
Et un peu la partie publiée par Mnemos.
Par Mnemos,
oui,
parce que celui de Ariel Holz.
Oui, voilà. Les sœurs Carmine dont j'ai fait la couverture. Mais oui, par contre, oui, effectivement, Naos est une collection partagée. C'est la collection plus orientée jeunesse et jeune adulte des Indés de l'imaginaire. Mais oui, là par contre, c'est vrai que je m'occupe principalement de la partie la partie mouton électrique. Ouais.
Et donc là aussi, une identité facilement reconnaissable. Quand on met trois Naos différents côte à côte, on sait tout de suite qui est celui dont s'est occupé Melchior Ascaride.
Bah, tant mieux. Non, et puis c'est vrai que c'est... moi, c'est pas le genre de littérature que je lis. C'est vrai, trop le young adulte. Donc, c'est vrai que de moi-même, je pense pas que ce serait. Je me dirais, tiens, j'ai envie de faire des couvertures pour du jeune adulte, construire une identité pour une collection de jeunes adultes. Mais comme André François me l'a demandé, que je vais pas lui dire non, ça je m'en occupe pas. Et puis parce que c'est intéressant aussi de voilà, enfin toujours la même histoire quoi, de sortir aussi de son propre carcan qu'on se met et se confronter à des genres qui sont avec lesquels on n'est pas familier ou pas particulièrement à l'aise non plus quoi. Donc c'est vrai que moi le jeune adulte je découvre beaucoup avec Naos quels sont les codes, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui donc oui, il faut. Puis pareil, c'est on a souvent, je trouve, aussi tendance un peu à crétiniser ces pauvres lecteurs un peu jeunes, et ils le méritent pas, donc ils méritent d'avoir des chouettes textes et qu'on se moque pas d'eux aussi avec en leur faisant des propositions graphiques parce qu'ils sont tout aussi intelligents que les autres, donc on peut ils sont sensibles à autre chose. Même s'ils sont un peu plus jeunes que nous, quoi. Il y a pas de raison.
Ce qui m'a frappé, c'est que c'est une inspiration. Bon, c'est beaucoup plus coloré quelque part.
Oui.
Ça, je suppose que ça fait partie des codes pour des lecteurs peut-être légèrement plus jeunes qui ont plus d'habitude ou.
Parce que la littérature jeunesse est quand même assez prolifique, donc c'est vrai qu'il faut. Enfin, c'est bien beau de dire on crée des identités graphiques, etc., et on se fait plaisir, mais il y a un moment aussi où on est quand même pris par les... Enfin, il faut quand même essayer d'avoir en tâche de fond la réalité économique des choses, qui est, il y a énormément de production, qu'est-ce que je fais pour me démarquer en librairie, comment je vais arriver à faire que ce livre-là va sortir du lot par rapport à tout ce qu'il va y avoir autour. Donc c'est vrai que, voilà, bah, par exemple... Un livre tout jaune et orange, bien pétant, bah ça. Nous, ça, c'est pas parce que ça répond au code, c'est déjà parce que le texte est très joyeux et très solaire, mais aussi parce qu'il faut que ça ressorte, et puis parce qu'il y a une gradation aussi dans le texte. Le premier tome est très clair, mais ça se délite au fur et à mesure, donc voilà, ça permet d'avoir.
Et puis, c'est quand même aussi une influence, vous en parliez tout à l'heure, une influence un peu années 30. Il y a souvent des cités avec des buildings. Je pense à un livre dont je revois très bien la couverture et dont j'ai oublié, bien entendu, le titre juste maintenant. Celui où il y a cette cité avec ce grand building totalement éclairé.
Parce que c'est pas l'île de Peter ?
Non. C'est... je crois que c'est dans Naos. C'est un peu steampunk comme roman.
Ah, j'ai.
On en avait parlé ensemble d'ailleurs à l'époque quand j'ai découvert la couverture.
Mais c'est Enfant du Chaos ?
J'ai un trou absolu de mémoire. Dimanche 16h45, 4 jours d'imaginal. Je suis vraiment désolé, mais j'ai quelques neurones qui ont.
Oui, je crois que c'est oui avec ce grand cette clair, spire blanche voilà. Au milieu. Oui, c'est Enfant du Chaos de Eva Simonin.
Et voilà, c'est ça.
Et alors moi, par contre, j'ai perdu le fil de la question. C'était
cette influence très, ça fait oui, très années 30. Années 30. On dirait un poster des années 30.
Oui, ah oui, mais j'ai une passion débordante pour. Pour le travail graphique qui a été fait dans les années 30, mais c'est pas étonnant parce qu'on voit que c'est une approche graphique qui revient énormément, mais c'est normal. Enfin, un travail qui a 80 ans, qui est mille fois plus moderne que que les 99% des affiches qu'on voit en ville et dans le métro à Paris. Il y a un sens de la composition, il y a un travail sur la couleur, un travail sur la texture qui fait que c'est une période absolument, je trouve, incroyable graphiquement et puis surtout une période très 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 productive où les graphistes, affichistes, illustrateurs, tout ça ils étaient tous mélangés, c'était des espèces de touche-à-tout qui un peu des espèces de génie un peu quoi. Mais donc oui, moi j'ai parce que le sens de la composition et le sens de l'épure qu'on retrouve dans le travail des affichistes de cette période-là. C'est un joyau quand on veut justement arriver à dépouiller que ce soit une couverture, une affiche, mais enfin gardons l'idée de la couverture, mais dépouiller une couverture pour en tirer la moelle. Oui, c'est une école. Il faut y passer forcément ou pas qu'on aime, mais juste pour arriver à capter le sens de la composition et du détail. Ouais.
Bah écoutez, je vois que là, comme il est, on a encore 5 minutes. Si vous avez des questions,
oui, bien sûr.
Autant en profiter parce que, comme je vous l'ai dit au début, je suis moi-même pas du tout un expert en la matière. Donc, il y a peut-être des questions plus techniques, etc., qui moi m'ont échappé. Donc, profitez-en.
Je fais un mélange des deux. Moi, je suis fondamentalement incapable de dessiner directement sur ordinateur. J'ai besoin de travailler à la main. Donc oui, il y a des parties que je fais directement, oui, effectivement, à l'ordinateur. Surtout quand il s'agit de bâtiments ou quoi, parce que ça me repose en plus, je trouve ça très agréable. Mais par contre, oui, il y a toujours quelque part, il va y avoir un petit truc fait à la main. Alors, Dévoreur, le visage est fait à la main, mais de toute façon, oui, je travaille. Il y a toujours une part de fait main que je scanne et que j'intègre derrière. Ouais.
D'accord. Une autre question.
Mon parcours, c'était ma formation ou comment je suis arrivé au mouton électrique?
Les deux.
Les deux. Alors ma formation, j'ai d'abord suivi des études d'art plastique à l'université à Aix-en-Provence. Donc j'ai eu une formation là-bas plus théorique que pratique. Enfin, j'ai appris plus d'histoire de l'art et de philosophie de l'art que de pratique de l'art en soi. Et ensuite, j'ai fait une école de graphisme à Aix-en-Provence aussi, pareil, dont je suis sorti en 2000, je sais plus, 9, je crois. Donc, là, j'ai fait 3 et 4 ans. Et ensuite, j'ai un peu travaillé comme freelance. Ensuite, j'ai monté un studio avec des copains, ça s'est très très mal passé. Et après, je suis allé m'installer à Paris, puisque j'habitais à Aix-en-Provence. Donc, quand je suis arrivé donc en 2013, j'ai fait le tour du salon du livre avec mon petit portfolio de fausses couvertures sous le bras parce que j'en avais encore jamais fait pour aller démarcher des éditeurs. Et je suis allé voir donc les moutons électriques. Je crois 4 ou 5 mois plus tard, ils m'ont recontacté. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble.
Oui, ok.
Pourquoi je suis allé voir les moutons? Parce que justement, à l'époque, il travaillait avec Sébastien Hayez, qui est graphiste lui aussi, et qui avait une approche, et qui a toujours d'ailleurs, une approche très graphique de ses couvertures. Enfin, c'est lui qui s'occupe justement des couvertures de Jean-Philippe Jaworski. Et si vous voyez la couverture de Gagner la guerre, elle est on ne peut plus sobre, etc. Moi, c'est une couverture que j'aime beaucoup, mais voilà, elle est très sobre, elle est quand même assez osée pour ce genre de milieu. Et c'est vrai que ce traitement à la fois très osé et plus, alors pour des livres qui sont je crois plus durs à trouver, mais la collection des miroirs qui était une collection d'ouvrages théoriques, d'essais sur des grands thèmes de la pop culture, il y a toujours eu ce mélange entre une approche très graphique et contemporaine et en même temps une approche très populaire, mais populaire dans le bon sens du terme, quoi, vraiment de culture pop. Et moi c'est ça qui m'a plu parce que ça m'a parlé. Je me suis dit eux ils ont une autre vision, peut-être qu'on peut arriver à s'entendre. Non, à l'époque je crois que j'en ai démarché quelques autres, je saurais plus vous dire qui, surtout qu'en plus le salon du livre c'est extrêmement angoissant quand on va démarcher des éditeurs parce que faut arriver à se caler entre deux personnes, il y a du monde partout, etc. Donc non, j'ai dû en faire 3-4 et j'ai fini par les moutons électriques et j'ai dit bon allez tant pis, je m'en vais et voilà.
Ok, une autre question ? Non.
Bah, sinon je suis encore un peu à la bulle du livre si jamais voilà, si donc, jamais il y a d'autres questions auxquelles je peux
écoutez,
répondre
alors
plus tard.
Je vous invite à aller voir parce que là évidemment c'était difficile de voir de loin, mais je vous invite à aller admirer les couvertures de Melchior Ascaride donc sur le stand des indés de l'imaginaire, d'autant plus que j'ajouterai que pour une fois souvent le contenu est aussi bon que le contenant. Donc ça vaut la peine. Merci beaucoup Melchior.
Merci Jean-Luc.